petite présentation en complément de ce qu'on vient de voir de 10 minutes. Et puis Christian abordera sur la même distance et la même longueur sans dépasser la procédure qui a été engagée contre l'agence de l'eau. Et puis ensuite, on répondra aux questions. C'est sans doute ça le plus important. Alors, je vais vous lister assez rapidement, comme je le fais devant les conseils municipaux d'ailleurs depuis déjà pas mal de temps, l'ensemble, enfin pas l'ensemble, mais les principaux arguments qui font qu'on s'oppose à ces projets. Donc, vous avez déjà eu un aperçu là, sur le diapositive qu'on a en face de nous quelquefois qui sont pas, qui eux sont des pro-bassines. On n'est pas opposé à l'irrigation, on n'est même pas opposé au stockage, mais certainement pas dans ces proportions-là, et surtout pas de cette manière-là. Et je le développerai un peu plus loin. Là, dans les remarques générales, on peut considérer aujourd'hui, je l'ai déjà dit, mais moi, ça fait, quand on dit vieux militant, ça fait plus de 40 ans que je suis dans le combat sur l'eau, mais pas que sur l'eau, mais depuis les années 80, on a connu l'année 76, qui était une véritable année sécheresse. Et dès les années 80, l'État a offert gracieusement ce bien commun et public qu'est l'eau à une catégorie minimum du monde agricole, qui représente en gros 5% du monde agricole, ceux qu'on appelle les irrigants, qui irriguent pas mais qui aspergent et qui arrosent, même si on a été trompé un peu sur les adjectifs et sur la marchandise. Mais depuis les années 80, on a développé un maximum de forage partout, et on a autorisé des prélèvements largement supérieurs à ce que peut fournir le milieu. Et finalement, aujourd'hui, après toutes ces années, eh bien, il faut dire, dans les généralités, et moi c'est ma conviction, et puis ça se vérifie tous les jours, les bassines, c'est le bout du bout. C'est l'aboutissement d'une politique agricole qui a commencé bon, à la fin de la guerre. Hein, il fallait nourrir la population, il y avait des besoins, il fallait remembrer. On a plutôt démembré, on a plutôt restructuré complètement avec beaucoup d'argent public l'agriculture, et ça nous a amené à ces remembrements, hein, que j'appelle des démembrements, à ces drainages, à ces curages de rivières, à ces alignements de rivières, à ces créations de fossés, à ces forages, à ces prélèvements intempestifs dans la nappe phréatique. Et dans une région comme la nôtre, enfin, moi je parle, on est dans le marais Potvin, autour du marais Potvin, entre Niort et La Rochelle et jusqu'à la baie d'Aiguillon, dans un secteur où l'eau est présente partout, où l'eau de mer pousse l'eau douce, où il ne faut pas trop tirer sur l'eau douce, autrement l'eau de mer remplace, et c'est déjà arrivé en Vendée en particulier, mais je vais éviter de trop développer parce que sinon je dépendrai les 10 minutes. Donc, les bassines, c'est ce qui reste pour essayer de maintenir encore en place une agriculture qui est sur le déclin, un modèle agricole qui est sur le déclin, et qui sans argent public, aujourd'hui on est à 70-80% d'argent public, tant sur l'investissement que sur le fonctionnement. C'est-à-dire que si on est aussi riche que ça en France, moi je serais d'accord pour qu'on aide toutes les entreprises, mais dans les mêmes proportions. C'est loin d'être le cas, on aide. Il y a 80% des aides qui vont à 20% du monde agricole, mais c'est absolument lamentable. Et c'est pour cette agriculture qui ne nous nourrit pas, mais qui, au bout du compte, empoisonne les agriculteurs, supprime les agriculteurs, fait disparaître les exploitations, profite aux plus grosses exploitations et nous empoisonne, nous, au bout du compte. Et rend en plus les terres stériles et pille un bien public, encore une fois, qu'est l'eau. Ça, c'était pour les généralités de départ. Ces projets, on les considère, nous, comme encore aujourd'hui surdimensionnés, parce que il y a eu tellement d'années où on s'est trouvé dans des situations de pénurie que maintenant, le miracle, la solution, et c'est ceux qui ont créé le problème qui nous propose une solution, c'est de dire, ben, finalement, vous avez raison, puisque depuis le temps que vous le dites, on l'a vérifié, c'est vrai, 6 à 800 km de rivière asséchée tous les ans. On a besoin des céréales, le maïs a besoin de beaucoup d'eau l'été. Effectivement, on a eu une idée géniale, et c'est du bon sens paysan, ils ont le culot de dire ça en plus. On va prendre l'eau plutôt l'hiver dans les nappes phréatiques, comme ça on ne la prendra plus l'été. Et comme on va la prendre l'hiver, ben, il faudra bien la stocker quelque part, donc on va la stocker en surface, sur des buttes, sur des bâches en plastique noir. Je développerai un peu plus loin, Mais dans le concept et dans l'idée, ce n'est pas spécialement du bon sens et ce n'est pas super génial. Donc voilà la solution qui a été trouvée, et c'est les Deux-Sèvres sont j'allais dire, le lieu où on veut essayer de mettre en place ce système pour le développer au niveau national, puisque c'est plus de 200 bassines sur l'ancien Poitou-Charentes qui sont normalement prévues. Donc notre combat, vous l'avez vu, il est sur les 19 de départ, maintenant 16. On continue de dire que ces prélèvements sont supérieurs à la ressource, même si on en prend une partie l'hiver. Ça serait en gros 7 millions l'hiver pris dans la nappe phréatique, enfin sur le secteur de la Côte de l'Eau. Parce que la Côte de l'Eau, c'est la fameuse société qui a été créée pour gérer l'eau dans notre secteur. 7 millions pris l'hiver, 6 millions pris l'été. 7 et 6, 13. Mais on a oublié les 2 millions qui sont déjà en place sur les bassines de la Laigne, qui sont d'ailleurs illégales. Et pour ceux qui ont suivi nos manifestations, la dernière manifestation, on a envahi une de ces bassines. Et on a, entre autres, on a procédé à une désobéissance civile, puisqu'on a participé à rendre cette bassine non fonctionnelle pendant quelque temps. Ces cinq bassines de la Laigne sont illégales et ont été condamnées cinq fois par la justice. Et à chaque fois, depuis 5 ans, plus de 5 ans maintenant, le préfet de Charente-Maritime donne des dérogations pour qu'elles se remplissent quand même. Mais ça, bon, on est dans un pays où l'État s'assoit sur les lois de la République, sur de la justice. C'est assez incroyable. Donc je reviens à nos bassines. Quand on dit que les prélèvements sont supérieurs à la ressource, depuis le début, depuis les années 80, en gros sur ce secteur, 10 millions de mètres cubes étaient prélevés dans le milieu. Le projet des bassines, en prenant c'est vrai une partie l'hiver, mais toujours en nappe phréatique, il est de 14 millions et demi. Avec 10 millions pris les 10 dernières années en moyenne, on a de 600 à 800 km de rivière asséchée. Si on en prend 14 millions ou 14 millions et demi, même en partie l'hiver, ça ne va pas améliorer les choses. Ça ne fait que si maintenant on a des assecs d'hiver. C'est-à-dire que là, on est bientôt au mois de décembre, il n'y a toujours pas d'eau dans les rivières. Et le toit de la nappe, puisque chez nous, c'est un détail, je veux éviter de développer, mais on est sur des nappes superficielles, on n'est pas sur des nappes profondes. Et les puits, les sources dont on a parlé ce matin, c'est le débordement, c'est le toit de la nappe. Toutes les rivières et tous les puits sont à sec, ça sous-entend qu'on est descendu en dessous de la couche d'argile. Donc ça a des conséquences pour les maisons, pour la voirie, pour tout le reste. Mais là, j'éviterai de développer. Donc, ce n'est pas un projet acceptable, puisqu'on n'a pas encore réduit les volumes qui pourraient être supportables par le milieu. On n'en est pas sûr, mais il y a une étude qui n'a toujours pas été faite, qui devrait démontrer quels sont les volumes possibles et prélevables. À notre sens, peut-être qu'on est autour de 5 millions, mais ce n'est même pas sûr. Et puis, à notre avis, la priorité, ça a été dit ce matin, c'est de respecter la loi sur l'eau et de remettre les choses en ordre. Première priorité, c'est l'eau potable. Seconde, c'est le milieu, ça a été dit. Si on ne préserve pas le milieu, on ne préserve pas l'eau potable et on ne préserve pas la qualité et la quantité. Et en trois, et seulement en trois, c'est l'eau économique. Si on peut parler d'économie en agriculture, quand il y a 80% d'argent public. On dit que ces projets ne sont pas réalistes parce que, ben, par exemple, si la nappe était reconstituée, comme dit le président de la COP de l'eau, on prendrait que l'eau qui déborde de la nappe. Et si on prend toute l'eau qui déborde de la nappe, ça veut dire qu'on n'a plus de puits, on n'a plus de rivières, puisque c'est ce qui alimente les rivières. Ça veut dire qu'on est au Maroc demain avec des ouèdres, mais plus des rivières, avec de l'eau de ruissellement, mais plus de l'eau de source. Donc ça, c'est quand même très grave. Et pourtant, à force de le dire, ils finissent par le croire. Ce n'est pas réaliste parce que quand la nappe est reconstituée, si elle est reconstituée par exemple fin décembre, ça arrive des fois, hein, des fois c'est novembre, eh bien ils ont que 2 mois et demi, parce qu'à partir du 15 mars, on n'a plus le droit normalement de prélever la nappe. Ils ont 2 mois et demi pour remplir les bassines, c'est-à-dire en gros janvier, février et la mi-mars. Ils ont un mois de plus si c'est rétabli fin novembre, s'ils ont le mois de décembre. C'est rarement le cas. Et c'est de moins en moins le cas avec le réchauffement climatique, donc ça sera peut-être maintenant 6 années sur 10 où ils ne pourront normalement pas remplir, sauf dérogation. Donc c'est vraiment pas réaliste. Et comme ils n'ont que 2 mois, la bassine d'Amuré sur ma commune, par exemple, eh bien, il faut pendant 2 mois et demi pour la remplir, c'est 800 000 mètres cubes. Il faut simplement des pompes qui tournent à 500 mètres cubes heure, 24 heures sur 24, pendant 75 jours. Je ne vous dis pas la situation dans le coin où elles vont être installées. Même en répartissant la misère, c'est clair que là, ce n'est pas seulement les rivières et les puits qui seront à sec, c'est aussi les châteaux d'eau et l'eau potable. C'est pas démocratique, on en a parlé suffisamment ce matin par rapport à la loi sur l'eau, parce que bon, l'eau n'a aussi pas de frontières. Il y a eu des enquêtes publiques sur les communes pour les bassines, mais on n'a pas parlé aux communes qui étaient en amont, parce qu'elles étaient en train de se préparer, alors que c'est elles qui envoient l'eau. Et ça a été dit ce matin, ceux qui
courent en amont envoient l'eau. Hein, courir, on
a le droit. C'est aussi écrit dans la loi qu'on n'a pas le droit de vider les rivières. On doit respecter un débit minimum d'étiage, qui est le débit minimum de la rivière calculé sur l'année. Voilà. Une rivière peut avoir des insectes, mais il faut qu'elle ait des crues. Une rivière, c'est vivant, ça doit respirer. C'est pas un canal, c'est pas un tuyau. On dit aussi que c'est pas équitable, parce que quand on parle de 10, même pas 10%, c'est 5% du monde agricole, et ça accapare un bien public, donc c'est loin d'être équitable. C'est pas transparent, parce que quand on met 70% d'argent public, il serait normal que la COP de l'eau nous donne les noms de ceux qui vont être branchés sur les bassines. Et là, il n'y a pas moyen, ou alors c'est des bagarres pas possibles, ou que partiellement. On sait d'ailleurs, je n'aurai pas le temps de développer, mais ça aurait été intéressant, on ne sait toujours pas quel sera le prix de l'eau du mètre cube par rapport à ce que donnent les arroseurs à l'agence de l'eau qui finance. Ces sommes-là sont prises en grande partie à l'agence de l'eau, sur nos fonds publics et sur nos factures. Et c'est nous, à 80%, qui abondons les agences de l'eau avec nos factures. Le monde agricole et les irrigants en particulier, ils sont à moins de 2% d'apport d'argent. Donc là encore aussi, c'est un scandale. Et puis je terminerai, parce que j'ai bien peur d'avoir dépassé mes 10 minutes. La justice, à chaque fois, condamne systématiquement tous ces ouvrages. Et les condamne pour 3 raisons. La première, il n'y a pas d'étude d'impact sérieuse ou incomplète, parce que quand on pompe dans un milieu, il faut regarder ce qui se passe autour. Tout à l'heure, j'ai parlé des maisons, il n'y a pas que ça. Les études d'impact n'existent pas ou sont incomplètes. Les prélèvements sont supérieurs à ce que peut fournir le milieu. Et on n'est pas dans quelque chose d'équitable et d'intérêt général, surtout, puisque quand on met 70% d'argent public d'entrée, plus sûrement 10% supplémentaire. Quand on arrive à 80% d'argent public, remarqué en Charente-Maritime et en Vendée, c'est 100%, puisque le Conseil général, les conseils généraux abondent les 20% qui manquent. Il n'y a que dans les Deux-Sèvres où on est qu'à 70% pour l'instant. Et je finirai là-dessus. Moi, je considère, je suis de ceux qui considèrent que, bon, je ne vais pas faire le détail entre une retenue collinaire et une bassine, mais vous avez vu que là, ce n'est pas une retenue collinaire. C'est pas de l'eau de ruissellement, c'est sur des buttes, au soleil, sur des bâches en plastique noir. Quand on est assez bête, quand on est assez stupide, pour considérer que c'est une bonne idée, que c'est génial, quand on a la chance d'avoir de l'eau sous les pieds, c'est pas le cas partout en France, et c'est loin d'être le cas partout dans le monde, quand on a la chance d'avoir de l'eau sous les pieds, d'aller au frais, à l'abri des pollutions, enfin pas totalement, mais en grande partie, qu'elle est à l'abri de l'évaporation et qu'on considère malin d'aller la chercher, de la pomper, je ne vous parle pas du bilan carbone, hein, de la monter sur les buttes, de la mettre dans ses bassines sur des bâches en plastique noir. On s'expose évidemment à l'évaporation. En Espagne, ça a été fait depuis longtemps, ça va de 20 à 60% d'évaporation.
Oh, putain.
Une bassine en moyenne, c'est 4 millions d'euros. Donc, il ne faut pas s'embêter, hein. 20 à 60% d'évaporation chaque année. Et de l'eau au soleil, c'est aussi la dégradation, l'eutrophisation. Et aujourd'hui, c'est déjà les cyanobactéries. Donc, on va à la catastrophe, on va au fiasco. D'autant plus qu'avec le réchauffement climatique, il est très clair, c'est le cas en Espagne, les bassines sont faites, il n'y a plus de quoi les remplir. Ils les remplissent à un tiers et encore à peine. Donc là, on est dans le délire total. Et que des élus soient aussi assez insignifiants pour continuer de soutenir des modèles comme ça, dans moins de 10 ans, la démonstration sera faite que c'était stupide et que ça a servi à rien. Voilà, je terminerai là-dessus. Je terminerai quand même en disant que on a aujourd'hui un moyen de lutter contre le réchauffement climatique, même si c'est sans doute trop tard, c'est non pas de mettre l'eau au soleil, mais c'est de redonner l'eau à la terre, c'est-à-dire de faire le contraire de ce qu'on a fait depuis un demi-siècle. Dans ce petit bouquin, c'est écrit ici, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, il faut tout faire pour restaurer les zones humides, tout faire pour que l'eau puisse à nouveau s'imprégner dans le sol, parce que c'est là qu'elle est le mieux. Et ça, on a fait le contraire depuis un demi-siècle. Donc, redonner l'eau à la terre, voilà, c'est la ligne directrice à se donner pour demain. Tout ce qui va dans le sens contraire est stupide et nous amène à la catastrophe. Voilà, je m'arrête et je vais laisser la parole.